I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Rendez-vous chez nous.
Maintenant, si moi je dis rendez-vous chez nous.
ushenu Yahudi, ya rendezvous chez nous. On essaie?
Oui.
Rendez-vous chez nous, ya.
Ya rendez-vous chez nous.
Rendez-vous chez nous, ya.
Ya rendez-vous chez nous.
Rendez-vous chez nous, ya. Et la danse c'est quoi?
Chant.
Et la, le chant c'est quoi?
Lila.
Lila. Donc, si on dit chant dans son,
chao.
Chant dans la,
lao.
Chant dans le,
remo.
Chant dans le,
remo.
Rembo.
Rembo.
Chant dans le son.
Alors tout ça c'était des cadeaux l'année dernière. Ces cadeaux-là, c'était bien.
Est-ce que vous avez aimé?
Vous avez aimé?
Oui.
Bien non.
Oui.
Hein?
Oui.
Allez, vous nous pas encore.
Bon, nous aussi, on avait beaucoup aimé. Vraiment pour nous, c'était bien. Donc, on a voulu revenir encore et vous faire un nouveau cadeau. Voilà. Donc cette année, comme le disait Marion, c'est un nouveau cadeau. Quelque chose que vous avez peut-être jamais vu et que vous allez découvrir. Ça s'appelle les acrobates ghanéens.
Ghané acrobatie. Hein? Donc, c'est les acrobates ghanéens
qui viennent du Ghana
pour faire un peu de l'acrobatie.
Une seule partie.
Peux chanter ça, Nano?
Mon pays, mon pays, mon pays,
mon pays, faut que ça change. Mon pays, la mentalité doit changer.
Mon pays, la manière doit changer. Mon pays, faut revoir la civilisation.
Bonjour, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis présentée par la compagnie Les Montures du Temps. Avec nous dans le studio, Marion Grenier, bonjour. Donc, on vient d'entendre un petit extrait de... On vient d'entendre un petit bonjour. Extrait, en fait, bonjour, ouais, de ton enregistrement que tu as fait, en fait, au Burkina Faso, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On vient d'entendre des séances de médiation artistique et culturelle qu'on a fait dans des communes rurales. Dans des communes rurales autour de Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, l'année dernière, dans le cadre du festival Rendez-vous chez nous.
Donc le festival Rendez-vous chez nous, c'était donc la deuxième édition cette année. Ça s'est passé du 10 au 13 février en 2011. Et c'est un festival d'art de la rue. Au Burkina, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Alors, comme tu l'as dit, en février 2011, c'était la deuxième édition. Moi, je suis arrivée là-bas en octobre pour travailler sur ce festival, donc bien en amont. J'y étais pas à la première édition et je n'y suis pas cette année pour la troisième édition en 2012. Donc je pourrais vraiment que parler de mon aventure de la deuxième édition. Donc c'est un festival des arts de la rue au Burkina Faso qui est organisé et monté par une association burkinabée qui s'appelle Assemur. Donc c'est association clown, musique et marionnettes dans nos rues. Et c'est aussi assez mûr, ça veut dire on en a assez des murs. Donc on casse les murs pour sortir dans la rue, faire de l'art dans la rue. On est assez mûr pour... Donc nous sommes assez mûrs pour faire de l'art pour la population. Et c'est voilà, un projet de démocratisation de l'art et de la culture au Burkina Faso et de décentralisation. Donc, voilà, ça se passe à Ouagadougou entre autres, mais aussi dans beaucoup de villages alentours et dans d'autres villes du Burkina.
Quand tu parles donc de décentralisation, de démocratisation, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel était ce projet en fait ?
Oui, alors l'idée d'Assemur et donc du directeur à la base qui s'appelle Boniface Kakambega, qui est en ce moment au Burkina mais que j'ai rencontré en France. Donc bon, je peux pas parler en son nom, mais c'est vraiment son projet, son bébé. Il a découvert les arts de la rue en France via les grandes personnes d'Aubervilliers, donc à côté de Paris. Ensuite, en allant sur différents festivals, notamment Les Invites ou Chalon dans la rue. Bon, je suis pas sûre qu'il soit allé à Chalon, mais il s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'art de qualité, qui pour faire rêver, faire réfléchir les gens dans la rue, donc accessible à absolument tout le monde et gratuitement. Il y a vraiment cette notion de gratuité totale sur Rendez-vous chez nous. Donc ce projet a mûri pendant des années et il a créé ce festival Rendez-vous chez nous à Ouaga. Sachant que là-bas il y a déjà des festivals, enfin c'est une culture du festival. Le Burkina, c'est pas, il n'y a pas de salle de théâtre permanente. Il y a beaucoup de festivals, le FESPACO qui est un festival de cinéma, les Récréatrales qui est un festival de théâtre, avec des choses qui se passent dehors, mais c'est quand même toujours payant, c'est toujours à Ouagadougou. Lui, il a eu envie de casser tout ça, et donc il y a eu toute une phase de formation des artistes au Burkina aussi. Et il y a encore cette phase de formation, ce volet formation dans l'association Assemur, pour que les artistes du Burkina puissent s'émanciper de... voilà, que les artistes du Burkina puissent découvrir des artistes européens pour apprendre à créer pour la rue et s'approprier l'espace dans la rue.
Et donc, tu disais que c'était un festival qui s'était passé à Ouagadougou, mais pas seulement, notamment dans des villages, en milieu rural donc.
Voilà, c'est ça. Il y a une programmation à Ouagadougou dans un quartier qui s'appelle Gonguin, et dans 7 villages autour de Ouaga, donc dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres. C'est des villages où on peut à peine y accéder par la route. Enfin, il y a une route au début quand on sort de Ouaga, et puis après il n'y a plus de route, c'est des pistes. Donc on part en moto dans la poussière et voilà, il n'y a absolument rien là-bas. Donc c'est complètement fou comme projet, mais ça s'est fait. Donc les villages, c'était Boulbi, Bassamiam, Gobi, Komsilga. Komsilga, c'est le village référent. Il y a des très bons relais là-bas. Voilà, mon Jean-Pascal Fanré, etc. Et l'idée, c'est donc de proposer dans ces villages la même programmation qu'à Ouaga. Donc aussi bien des grosses compagnies européennes qui vont voilà, sur ce terrain-là, et puis des compagnies burkinabées, marionnettistes et autres, dans les écoles, entre autres. On en parlera après.
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'était qu'il y avait 8 pays représentés.
Oui, il y avait 8 pays représentés l'année dernière. Donc il y avait le Burkina Faso, bien sûr, le Niger, le Togo, le Ghana, le Bénin. Et d'Europe, il y avait la Belgique, la Suisse et la France. D'accord. Les compagnies françaises étaient Carabos, Générique Vapeur, la Rhino Fanfaringite, l'Étoffe des Rêves. Voilà, j'en passe, mais...
Et il y avait donc plus de 200 artistes qui étaient mobilisés pour le festival et à peu près 70 représentations en tout.
Voilà, c'est ça.
Donc au niveau logistique, c'est quand même un gros festival.
C'est colossal au niveau logistique. C'est des gestions de bus très compliquées, enfin notamment pour les transports en fait, des artistes et du public. Oui.
Et ma question, c'est comment en fait c'est pris par le public en fait, comment c'est réceptionné en fait ce festival? Alors d'abord à Ouaga, où j'imagine Ouagadougou, où ça doit être un milieu urbain qui est peut-être plus sensibilisé, on va dire, à la culture théâtre ou art de la rue, et justement dans les villages, comment est-ce que c'est perçu en fait?
Alors à Ouagadougou, en fin de compte, déjà le public n'est pas si sensibilisé que ça. aux arts de la rue, c'est aussi étonnant pour eux que dans les villages, même si dans les villages il y a aussi c'est quand même plus compliqué, c'est vrai. Je vais partir, enfin commencer par la fin, en essayant de faire vite. Mais donc au moment du spectacle, c'est reçu toujours très très bien. Étant donné que c'est dans la rue, il n'y a pas de jauge, il n'y a pas de nombre de spectateurs limité, et donc on a des masses de spectateurs énormes, enfin des foules très très denses, aussi bien devant les concerts que devant les petits spectacles. Et voilà, il n'y a pas de grosses surprises, il y a des réactions très fortes, des rires, etc. Mais
je te coupe deux secondes, j'ai vu en fait en lisant le dossier qu'il y avait plus des fois de 2000 ou 3000 spectateurs selon des spectacles. C'est
oui,
énorme.
Oui, c'est vraiment énorme. Alors c'est difficile d'évaluer, mais on est à la radio, je peux pas vous montrer de photos, mais c'est vraiment ça. Il y a on voit des foules compactes. Enfin, je dis qu'il y a des rires, que ça réagit beaucoup, et en même temps pas tant que ça. Il y a aussi beaucoup de surprises et un temps d'adaptation. Il y a des spectacles qui en France pourraient nous faire beaucoup rire, beaucoup réagir, qui là-bas ne fonctionnent pas forcément très bien, ou on a l'impression qu'ils fonctionnent pas parce que les spectateurs s'autorisent moins à réagir. Voilà. Après, ce que je peux commencer à dire, c'est que avant que les spectacles arrivent dans les villages et dans le quartier au Burkina, on a fait très en amont, donc dès le mois d'octobre-novembre, un travail de médiation. Non pas dans les écoles dont on parlera tout à l'heure et qu'on a entendu un peu en début d'émission, mais auprès dans la hiérarchie sociale, donc des chefs coutumiers, des vieux, donc les vieux c'est les aînés qu'il faut informer de tout ce qu'on va faire dans leur quartier ou dans leur village. Donc ça on a pu le faire, Vanessa et moi, avec
ça c'est le travail de médiation que tu as pu faire avec ta collègue.
Oui,
Vanessa,
voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, Vanessa Rip. Donc on en a fait une partie, on est allé voir les chefs coutumiers, les habitants, enfin surtout les habitants, parce que donc au niveau le plus haut de la société, c'est souvent fait entre Burkinabés. Pour une question de langue, il faut parler en moré, et puis une question culturelle. Enfin, il se passe des choses très fortes qu'on peut pas saisir en tant qu'occidental. Et puis parce que le rapport au blanc est très compliqué là-bas. Voilà, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais il y a toute une hiérarchie comme ça à suivre.
J'imagine que celui qui pilotait un peu tout ça, c'était quand même plus Boniface Kakambega, qui est burkinabé,
oui,
le directeur artistique du festival.
Oui. Oui, c'est ça. Qui allait des mois vraiment avant le festival dans les villages rencontrer les chefs coutumiers, les vieux. Et puis après, nous, on allait faire du porte-à-porte à Ouaga, et puis dans les villages, on allait sur les marchés pour rencontrer les gens, dire que dans 3 mois, il allait y avoir un festival et qu'il fallait pas avoir peur. Il y a aussi tout ce rapport-là dont j'ai pas parlé. Là-bas, il y a une culture de masques traditionnels. Les sorties de masques sont souvent des moments très inquiétants pour les habitants. C'est très lourd de sens. Et donc nous, tout notre travail de médiation, c'était d'expliquer que les marionnettes géantes ou toutes petites ou autres n'étaient pas là pour une raison particulière. C'était juste pour du plaisir et pour vous faire rêver. Voilà, il fallait quand même. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres avant le festival.
Un gros, gros, gros travail, voilà. Donc avant la
c'est
préparation
ça.
Du festival.
Voilà, et c'est pour ça, je pense que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de mauvaises surprises, de réactions particulières devant des spectacles. Tout le monde était préparé.
Avant de parler un peu plus en profondeur du travail de médiation dans les écoles, donc tout le volet éducation artistique, je crois que tu aimerais nous faire écouter un autre enregistrement que tu as fait. Il va s'agir de quoi?
Oui, alors c'est un petit montage dans lequel on entend encore quelques passages dans les classes, notamment dans une classe, une école où ça s'est extrêmement bien passé, à Gobi. Et donc c'est Charles qui intervient, le même artiste qu'on a entendu tout à l'heure, avec sa flûte. Et donc on va entendre parler un petit peu de son travail, et on entendra ensuite le directeur de l'école de Gobi parler de l'art pour les enfants. Et c'était un passage qui a eu lieu après le festival. Je vous expliquerai après le déroulement de cette médiation, mais là, les enfants avaient déjà vu un spectacle, étaient donc déjà sensibilisés.
D'accord.
À cette question.
Oh,
prenez ça, alors.
Ah oui.
Donc c'est de là. Je voyais des gens qui étaient assis comme ça.
C'est de là.
C'est de là. Dans là, la bouche là, c'est ha.
Et je m'appelle Cédo Drago. Comme vous l'avez dit, je suis le directeur de cette école, titulaire également d'une classe, le CE2. Et l'école de Gobi est dans la circonscription d'éducation de base de Komsilega. Elle est située donc environ 25 km au sud de la capitale du Burkina, Ouagadougou. Et déjà, il y a des talents qui ont commencé à s'afficher ici, des talents cachés que nous, on ne savait pas. Et donc, je disais que là, c'est tout ce qui touche la sensibilité. Tout ce qui touche la sensibilité. Et lorsque vous êtes en face d'un spectacle, d'une expression artistique, on ne peut que avoir un sentiment. On ressent toujours quelque chose.
Et un enfant qui serait privé d'éducation artistique et culturelle, qui serait privé d'art, qu'est-ce que ça ferait pour vous?
Pour moi, c'est un enfant qu'on prive de beaucoup de choses. Priver l'enfant de l'art, c'est le priver de sa liberté. Quelquefois, on pense même imposer une ligne de conduite aux enfants, mais en réalité, cette ligne de conduite là doit quand même ou permettre à l'enfant aussi d'exprimer, de valoriser ses génies, ses talents cachés.
Je peux et je vais y arriver. Il faut être objectif. Sinon, là, si vous dites non, ça ne va jamais aller, ça ne va jamais marcher, ça, là, tu vas rester toujours derrière. Et c'est les autres là qui vont partir de l'ici. Est-ce que vous avez compris?
Oui.
Dans toute chose, on n'a pas dit que forcément vous tous vous allez devenir des artistes. Il y a d'autres qui vont vouloir devenir des enseignants. Il y a d'autres qui vont devenir des directeurs. Celui qui veut devenir directeur, il n'a pas à mettre dans sa tête que s'il veut, il peut y arriver. Il ne doit jamais abandonner. D'accord?
Oui.
On peut compter sur vous?
Oui.
Moi, c'est Charles Djengere. Je suis artiste musicien, flûtiste, marionnettiste dans la compagnie Kouka.
C'est ça aussi notre métier. Dans notre milieu, c'est l'école de la vie. Dans l'art, on découvre tout. On rencontre tout. Et on joue même le rôle du directeur dans notre art. On joue le rôle de l'enseignant dans notre art. On joue le rôle de tout dans notre art. Donc, nous, on compte sur vous. Vous êtes la future génération. Donc, on compte beaucoup sur vous.
Pourquoi tu as choisi de travailler avec les enfants et pourquoi c'est important pour toi?
D'abord, pour commencer, j'ai été enfant, comme tout le monde, et je trouve que j'ai pas eu cette chance-là. C'est que ces enfants sont en train de vivre présentement. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu la liberté. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas eues. Et pour moi, le fait de voir un enfant heureux, le fait de voir un enfant content. Et c'est comme je l'ai toujours dit, quand je vois les enfants, je me sens enfant. Et ça fait que j'ai envie de revivre mon enfance au milieu de ces enfants-là. Donc, en tout cas, les enfants, c'est tout pour moi. Et je compte continuer comme ça. Voilà.
Donc pour toi, l'éducation artistique et culturelle, c'est apporter du bonheur aux enfants.
Apporter du bonheur aux enfants, les permettre de s'épanouir, les permettre d'être ouverts, de vivre une autre situation. Parce que quand on est, par exemple, à la maison, c'est différent. Quand on est à l'école, c'est différent. Là, c'est un milieu où on s'amuse et vraiment on dégage, même si on avait certaines choses en tête et qui te permettent pas de vivre librement, que tu t'éclates au maximum. Voilà.
Juste, tu dis que toi, tu n'as pas eu cette liberté et tu n'as pas eu tout ce bonheur que tu peux offrir aujourd'hui aux enfants, et pourtant, tu es devenu artiste.
Oui.
Comment tu es devenu artiste si tu n'as pas eu cette liberté-là et cette chance-là quand tu étais enfant?
Il faut dire que là où j'ai vécu mon enfance, j'ai quitté cet endroit dans les années 89. J'avais déjà 12 ans par là. Et quand je suis arrivé à Ouaga, puisque j'étais au village, et en 96 d'abord, j'ai eu à rencontrer la troupe des jeunes artistes du Burkina. Et je peux dire que cette force-là est venue par Eric. C'est lui qui m'a poussé même dans l'art, qui m'a dit on peut y arriver. Et en 2000 que j'avais commencé à composer mes premières chansons, et ça a commencé comme ça, et j'ai senti que j'avais cette volonté, j'avais cette envie, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau qui est venu et que je peux vraiment essayer de le faire. Et au début, ça a été vraiment des tâtonnements, mais maintenant je suis convaincu, parce que voilà, j'arrive à bien m'éclater avec les enfants, j'arrive à animer les enfants, et en plus j'ai appris un instrument, la flûte, et avec la flûte je les fais marrer, ils sont là, vraiment c'est un bon moment pour moi. Le fait de les voir contents, moi ça me fait vraiment grand plaisir, quoi. C'est bien qu'un enfant aille à l'école. C'est bien. Il faudra qu'il arrive à s'exprimer sans passer par quelqu'un d'autre qui va, par exemple, quitter dans son pays pour venir lui montrer ce qu'il lui, il doit connaître chez lui. Il doit tout faire pour connaître sa culture afin de pouvoir partager ça avec le monde entier, toute personne qu'il va rencontrer dans sa vie. Et je pense que être ce qu'il veut, voilà, permettre à un enfant d'être ce qu'il veut, c'est bien.
Et donc, nous sommes toujours sur le théâtre de la Gamelle en compagnie de Marion Grenier, qui a effectué un voyage de 5 mois au Burkina Faso. Et juste, tu avais envie de nous parler un petit peu de cette chanson-là qu'on vient d'écouter, et puis de l'enregistrement en entier d'ailleurs.
Oui, ce dernier petit chant-là qu'on a écouté, c'est un peu mon petit son à moi que j'adore me passer en boucle depuis que je suis rentrée. Non, c'était un moment un peu privilégié pendant ces 5 mois. On était donc avec Charles en séance de médiation. On passait d'école en école parce que les écoles étaient très rapprochées les unes des autres. Et on était très en avance dans une école. C'était le temps du déjeuner. Du coup, on s'est posé au milieu de la cour avec notre moto. Charles a commencé à faire un petit peu de flûte. Et là, il y a, je sais pas, 300 enfants qui se sont agglutinés autour de nous, qui étaient complètement fascinés par ces étrangers, à la fois étrangers au village et alors étrangers d'Afrique. Enfin, ma peau blanche les intriguait vraiment. Et Charles a commencé à chanter. Et là, on a chanté comme ça pendant une demi-heure. Voilà, c'était beau.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi a consisté cette mission d'éducation culturelle?
Oui, alors c'est donc un travail, ce projet d'éducation artistique et culturelle dans le cadre de Rendez-vous chez nous a été commencé lors de la première édition, donc sur laquelle je n'étais pas, par Vanessa Ripp et Béatrice Roux, qui était l'autre acolyte de Vanessa, qui était sur la première édition mais pas sur la seconde. Et donc bien entendu monté avec Boniface Kakambega, enfin c'était un projet réfléchi avec Assez-Mur, hein, dans le cadre d'Assez-Mur, l'association organisatrice du festival. Et donc l'idée c'était de programmer des spectacles dans les villages autour de Ouaga et notamment dans les écoles. Sauf que on peut pas comme je vous le disais tout à l'heure, arriver avec un spectacle comme ça et que tous les enfants soient contents, sachant que pas un enfant ne savait ce que le mot spectacle voulait dire, presque pas un enseignant, enfin c'était complètement étranger à cet univers-là. Donc il a fallu imaginer tout un programme de rencontres des enfants au préalable pour les sensibiliser à cette question, les faire rencontrer un artiste, leur donner quelques mots de vocabulaire. Et puis il a fallu aussi, pour intervenir dans les écoles, exactement comme pour intervenir dans l'espace public de manière générale, respecter la hiérarchie. Mais en partant de très très haut là-bas, les ministères, etc., sont beaucoup plus accessibles qu'ici. Donc on a rencontré le ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation, ensuite le directeur provincial, directeur, je ne sais plus, l'inspection d'académie, enfin voilà, tous les échelons de l'éducation nationale, pour faire court, pour leur expliquer notre projet et pour leur demander l'autorisation d'intervenir dans les classes et ensuite de programmer des spectacles dans les écoles. Donc il y a eu ça. Ensuite, on a rencontré les directeurs d'école individuellement, puis les enseignants, en leur proposant des fiches pédagogiques, des pistes de réflexion.
Pour qu'ils amorcent le travail avant votre arrivée.
Voilà, alors dans l'idéal pour nous, et puis... quand on parle d'éducation artistique et culturelle en France aussi, c'est toujours ça qui est latent, c'est d'intégrer ces questions de culture et d'art dans les programmes scolaires. C'est qu'on sorte du cadre de l'animation ou de la sortie scolaire au théâtre, et voilà, c'est très bien de faire aller voir un spectacle à des enfants, mais...
Il faut un accompagnement culturel
qui
va avec. Et en France, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément un acquis dans l'éducation actuelle, l'accompagnement culturel qui est nécessaire. Donc, c'est une question qu'on peut aussi retourner en France et dire qu'il n'y en a pas forcément assez.
C'est sûr. Mais alors là-bas, du coup, c'est bon, voilà, des problématiques vraiment différentes, comme je le disais pendant l'enregistrement, là, hors antenne, quand on a commencé à rencontrer les classes, donc début janvier, on s'est retrouvés face à des classes de 100 enfants en moyenne, entre 70 et 120, des enfants qui ne parlaient pas le français, avant le CE2, CM1, ils parlent pas français, ils parlent moré. Même si dans les écoles primaires au Burkina, le moré est interdit. Normalement, ils doivent apprendre que le français.
Bon, voilà. Et tu me disais que c'était assez compliqué parce qu'ils faisaient 10 km à pied pour aller à l'école.
Oui, alors peut-être pas 10 km, mais ils marchent énormément. Ils ont rien, ces gamins. Enfin, je ne vais pas faire du misérabilisme, mais c'est compliqué pour eux de bouffer. Enfin, donc, aller leur parler de spectacles et d'un festival, rendez-vous chez nous, c'est un peu leur parler de la planète Mars. Donc ça a été, heureusement qu'il y a eu les rencontres avec les enseignants avant, même si tous ne se sont pas impliqués dans le projet, la plupart ont quand même joué le jeu, leur ont parlé de notre venue. Et puis en fin de compte, ça s'est très bien passé. Les enfants ont été... À chaque fois, quand on allait dans les écoles, avant le festival, on a fait la tournée de toutes les écoles et de toutes les classes dans les écoles. On est passé 15 minutes par classe à peu près, pour leur présenter un artiste, donc Charles ou Eric ou Thierry, qui sont des artistes burkinabés, marionnettistes, musiciens, danseurs. Et donc pour leur expliquer ce que c'était que ce métier, leur expliquer ce que c'était que le festival Rendez-vous chez nous, et leur expliquer que dans un mois, il allait y avoir un spectacle de ce festival qui allait être joué dans leur école. Et que ça allait être gratuit et qu'ils étaient invités, que c'était un cadeau et que c'était pour leur faire plaisir. Voilà, une fois que ça a été compris, il y a eu le spectacle a eu lieu, le jour du spectacle, et le mois qui a suivi le spectacle, on est retourné voir tous ces enfants. Pareil, les 7 écoles, une dizaine de classes par école, entre 5 et 10 classes par école, 100 enfants par classe, hop, on passe 15 minutes par classe et on leur demande ce qu'ils en ont pensé, si c'était bien, pourquoi c'était bien. Là, c'est très compliqué d'essayer de développer un jugement critique. Déjà, s'exprimer en français, c'est hyper dur pour eux. Donc souvent, ils parlaient en moré avec l'artiste burkinabé. Mmh. Et voilà, mais on les sentait déjà beaucoup plus sensibles. Ils avaient retenu les mots spectacle, ils avaient retenu tout ce vocabulaire-là. Et puis ensuite, il y a eu une phase de concours de rédaction, mais où j'étais plus, j'ai pas pu, j'étais plus au Burkina à ce moment-là, et ça a été vraiment décalé dans l'année parce qu'il y a eu plein de troubles socio-politiques au mois de mars, avril au Burkina. Les écoles ont fermé, tout ça. Donc voilà, le concours de rédaction, je peux pas trop en parler, mais encore un temps, ce qui fait que en fait, de novembre à mai, il y a eu des interventions très régulières dans ces écoles.
Et au-delà en fait du Burkina, mais tu peux t'appuyer sur cette expérience que ça a été, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'éducation artistique? Pourquoi est-ce que toi tu es attirée par ça?
Alors vaste programme, vaste question. Pourquoi je suis attirée par ça à la base? Je sais pas comment j'en suis venue là, je sais que... Peut-être, comme disait Charles, la part d'enfant que j'ai encore en moi, et rendre les enfants heureux, ça fait très plaisir, etc. Mais ça va quand même au-delà de ça. Je pense que, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est à la fois une manière de les faire rêver à un moment un moment précis. On les fait un peu...
S'échapper de leur quotidien.
Voilà, s'échapper de leur quotidien, les faire... déconnectés de toutes ces images terribles qu'on leur montre, ce quotidien pas forcément rigolo même pour des enfants, peut-être même surtout pour des enfants. Et puis c'est une façon de leur de proposer à des enfants un autre regard sur le monde. Et je pense que si un enfant peut comprendre, si quelqu'un, une personne peut dès son plus jeune âge voir qu'on peut avoir un autre regard sur le monde. Donc aiguiser son sens critique, voir qu'on peut s'exprimer de telle ou telle manière.
Individuellement aussi, parce que tu parlais de cette difficulté, de ces classes de 100 personnes avec des enfants qui disent tous oui, des enfants qui disent tous non, qui répètent un peu ce que dit le maître.
Voilà, là je parlais de manière utopique et c'est le discours que j'ai là, c'est un peu le discours qu'on a en ce moment en France sur l'éducation artistique et culturelle. Là-bas, le combat commence, enfin, on est aux prémices de l'éducation artistique et culturelle au Burkina. Je parlerai pas de l'Afrique en général, je connais pas, mais au Burkina en tout cas, tout le chemin reste à parcourir. Enfin, nous on a posé les premières pierres, c'est très prétentieux de dire ça, on a essayé de poser quelques pierres, on va dire, et Vanessa continue à essayer de les poser en ce moment même, mais... En effet, c'est qu'on voit une classe, vous avez aimé le spectacle? Oui, tout le monde répond oui, parce que il faut dire oui, il faut faire plaisir. On se dit qu'il y a encore du boulot, et moi je suis sortie de certaines séances de médiation en colère, parce que même les adultes là-bas, on leur a toujours appris ça, donc même aujourd'hui, on leur dit bah oui, ils ont dit oui, ils étaient contents. Je dis mais non, moi, nous ce qu'on voudrait c'est qu'ils disent pourquoi, et qu'il y en a un qui a le droit de dire non, et qu'il y en a un qui a le droit de pas rire à ce moment-là. Et...
Non, ça, même en France, ça, c'est pas facile. Hein.
C'est pas facile, mais quand même, enfin voilà, c'est d'autant plus beau pour ça. On se dit que là-bas, l'individu est presque effacé, quoi, dans ces foules comme ça. C'est pas du tout le même rapport. Bon, alors l'enfant roi n'existe pas. Enfin, l'enfant n'existe pas là-bas. Donc leur donner un moment, un espace de liberté, à la fois pendant le spectacle et avant et après un espace de parole, c'est incroyable.
En tout cas, c'est génial ce que vous avez pu faire. Et je crois qu'on va écouter une petite musique que notamment les enfants burkinabés là-bas aiment beaucoup. C'est un groupe qui s'appelle Yélène,
c'est un groupe de un peu rap burkinabé qui chante entre autres avec Magic System, tout ça, et c'est un peu des stars là-bas, et ils ont, alors c'est quand même rigolo, ils ont été programmés donc dans Rendez-vous chez nous en 2011 et dans un village à Comsilga. Donc ça a été une aventure pas possible d'amener les camions d'ampli et tout ça, mais voilà, ils ont joué gratos dans un village à Ouaga, à Comsilga.
Yeah! Au commencement, la parole et le silence de grand. D'un côté Dieu, de l'autre Satan, deux camps. Le vent et l'air, phénomène différent. Entre le ciel et la terre, c'est clair, c'est deux camps. Appel et Caïn au sacrifice, deux camps. Musulmans, chrétiens, païens, c'est des camps. Entre le stylo, le papier et la tabac, deux camps. Le costume, trois pièces, le paysan, deux camps. Avant deux, il y a un, entre les deux, c'est deux camps. Le feu rechauffe l'eau, mais chacun reste dans son camp. Le remède et la maladie se battent tout le temps. Pas de vaccin pour le palu, c'est un business pour un camp. On est des êtres humains du même monde, mais pourtant, quand il y a un match de foot au stade, c'est deux camps. Entre mon premier couplet et les suivants, c'est deux camps. Y'a le CD, ma bouche et ton oreille, donc deux camps.
Difficile de vivre sans choisir son camp. Difficile d'exister sans choisir son camp. Oh, hey. Oh non, non, non. L'inégalité existe depuis longtemps. Mais en réalité, on n'est pas si différents. Oh, hey. Oh,
oh. Entre le juge et une sentence. La balance entre la vérité et le mensonge, de camp. La politique, le cinéma, oh, même camp. Habitants du tiers-monde, leur celui, c'est deux camps. Le diamant du Congo et le Congo, c'est deux camps. Le pétrole du Gabon et les caisses de France, même camp. En Côte d'Ivoire, on fête la fin de la mort des deux camps. Pendant que Tiken Jai Alpha cultive deux camps. Le jour et la nuit s'unissent souvent dans le même camp. Alors la chauve-souris se demande, mais je suis de quel camp? Entre la vie et la mort, il existe zéro camp. On a les biais de transport, destination, les deux camps. Y'a le chasseur, la proie, donc deux camps. Y'a ta prière et ta foi, tu vois, deux camps. La réussite ou le chèque définira ton camp. La noirceur de mon encre et la blancheur de ma feuille, deux camps.
Difficile de vivre sans choisir son camp.
À une règle confirme les deux camps. On guette la même côte, toi et moi, c'est deux camps. Le choix de porter une capote ou pas, c'est deux camps. Amant ou mari, on choisit forcément un camp. Corée du Nord, G8, dialogue à deux camps. Y'a l'âne, la charrette, le fouet, donc trois camps. Le voleur, le policier, l'arme, donc trois camps. Le voleur est mort, ça fait moins égal deux camps. Tirailleurs africains et français au front, c'est le même camp. À la fin de la guerre, entre frères d'armes, c'est deux camps. Le sourire et les larmes se retrouvent souvent dans le même camp. On en laisse couler beaucoup pour montrer qu'on n'est pas content. Le crédit et le cash sont loin d'être dans le même camp. Une femme de polygame et la politique, c'est le même camp. Tu ne peux pas vivre sans choisir de camp. Choisis ton camp, mais surtout choisis le bon camp.
Difficile de vivre sans choisir son camp.
Toujours sur le théâtre de la Gamelle avec Marion Grenier qui revient du Burkina, enfin qui est revenue en avril déjà du Burkina, mais qui a passé 5 mois là-bas et donc qui a fait tout ce programme de médiation et d'éducation artistique avec les enfants et des ados au Burkina. Ça a touché 4770 enfants et adolescents, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors à la louche, hein, mais ça a touché 2700 enfants dans les écoles primaires. Dans les communes rurales autour de Ouaga, et puis 2000 collégiens lycéens dans Ouaga, où là il ne s'est pas agi d'un vrai travail de médiation, dans le sens où on n'est pas allé avant le festival deux fois, et puis après, et puis un concours de rédaction. Non, là on est juste passé les voir en coup de vent, en disant voilà, il y aura ça dans votre quartier, c'est gratuit, invitez vos parents, vos amis. C'était plus un espace de communication que de médiation.
Et donc la prochaine édition, j'imagine que là, elle doit être bien en cours de préparation. Donc c'est Boniface Kakambega qui encore est à l'initiative avec Assemur du projet. J'imagine qu'ils sont en train de travailler encore à la 3.
Oui, alors là, c'est parti. Hein, ils sont sur le front. Ils doivent avoir très chaud en ce moment.
Contrairement à
une
nous.
Petite pensée pour tous ceux qui sont là-bas. Donc Vanessa Rip y est retournée. Elsa Hummel aussi, dont j'ai pas parlé parce qu'elle est vraiment, Elsa fait la communication et l'administration du festival. Mais donc toutes les deux françaises de mon âge, 25 ans, étaient sur la première édition, sur la seconde, et là elles y retournent et c'est leur voilà, c'est leur vie quoi. Et ça va être gros, il va y avoir un projet de médiation beaucoup plus poussé dans un orphelinat cette fois,
oui.
Avec un vrai atelier, avec un artiste avant. Enfin, un vrai atelier, oui, où les enfants vont pouvoir pratiquer et pas juste être récepteurs de notre message. Et puis, ça sera encore plus décentralisé dans d'autres villes du Burkina, toujours 6 ou 7 villages, mais plus de villes autour.
D'accord. Et un petit mot quand même sur toi, Marion, parce que maintenant, t'es revenue depuis le mois d'avril. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que t'as fait? Et est-ce que ça a un rapport avec ton aventure burkinabé?
Oui, alors je suis rentrée en avril et j'ai été un peu tiraillée entre le choix des arts de la rue ou le choix de la médiation, l'éducation artistique et culturelle. J'ai pas eu la chance de retrouver un travail qui mêlait les deux, on va dire, pas comme sur rendez-vous chez nous. Donc j'ai bossé sur un festival à Mulhouse qui s'appelle Scène de rue de mai à juillet. Qui est un très beau festival d'art de rue dans cette ville qui a aussi bien besoin de spectacles de qualité, etc. Et là, je suis de retour à Lyon depuis septembre et je travaille à Enfance Art et Langage, qui est une petite structure de la Caisse des écoles de la ville de Lyon, dans laquelle on ne fait que de la coordination de projets d'éducation artistique et culturelle pour la petite enfance, donc pour les écoles maternelles. Là, on organise des résidences d'artistes dans 8 écoles de la ville de Lyon. On a un centre de ressources pour l'éducation artistique et culturelle pour la petite enfance. Donc, voilà, c'est un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus fin, on va dire, sur l'éducation artistique.
En tout cas, on peut que te féliciter et puis souhaiter une longue vie au festival et à tous tes projets par ailleurs.
Bah, merci beaucoup, merci. Une petite pensée quand même pour les Ouagalais et les Assez-Murs.
Et je crois qu'avant que Combor nous rejoigne pour sa chronique paysagère, tu voulais quand même nous faire partager une dernière petite chanson.
Alors, oui, alors là c'est un chanteur burkinabé qui s'appelle Zedes, qui n'a pas été programmé sur Rendez-vous chez nous, que j'ai découvert sur un autre festival qui s'appelle Récréatral à Ouaga. Et voilà, c'est un petit clin d'œil et une chanson qui nous remettra un peu dans la réalité française actuelle.
Puisqu'elle s'appelle
Un Hongrois chez les Gaulois.
Super.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
C'est que la France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider de qui est accepté sur notre territoire et de qui n'est pas le bienvenu.
Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Il s'appelle Nicolas Sarkozy, il a inventé l'immigration choisie. C'est l'histoire d'un fils hongrois qui veut se faire couronner chez les Gaulois. Fini l'époque du négro musclé, belle dent. Aujourd'hui, il veut du noir diplômé, intelligent. C'est ça le critère du nouveau négrier qui a le culot d'aller en Afrique pour l'expliquer. Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Il s'appelle Sarkozy Nicolas, il dit si t'aimes pas la France, quitte-la. Qu'il n'a rien contre les Africains, seulement la France n'a plus assez de pain. Il s'appelle Nicolas Sarkozy, descendant d'un immigré subi, mais qui se vante d'être le roi du charter. La Hongrie, Nicolas Sarkozy.
Ils font trop d'enfants qui foutent le feu. Au cachet ou pas charte, ils nettoient la France. Attention, la racaille, 2007, la délivrance. C'est l'histoire de Nicolas Sarkozy. Descendant d'un immigré subi. Mais qui croit qu'il a un grand destin? Destin. Et de la France heureuse, c'est zéro clandestin.
Dis-moi, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Et donc, Nicolas, c'était une émission Sarkozy, du Théâtre de la Gamelle avec Marion Grenier qui revenait du Burkina, qui nous a parlé de Rendez-vous chez nous, et avec nous dans le studio Combord avec ses chroniques paysagères et la mise en abîme aujourd'hui.
C'est une mise en abîme des dangers de l'anthropologie subjective avec trois petits textes aujourd'hui. Le premier s'appelle « Les éléphants d'Hannibal ». Un jour ou l'autre, dans un passé indistinct, ils sont tous venus nous coloniser. C'était même avant Jésus-Christ et il en résulta la misère au moyen d'une poignée d'éléphants et de 100 000 soldats à la bite noire. Beaucoup périrent par notre bravoure, mais tout de même, ils s'introduisirent dans nos cités. Le pire est que nos femmes, si blanches, si serviles, si fidèles, elles se jetèrent sur les parties les plus consistantes, même qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui des blancs outrageusement bronzés, surtout dans le sud. Des fois, ils sont blonds de chez blonds, les yeux bleus de chez bleus, mais si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil vers les aisselles ou l'entrecuisse, l'histoire ne trompe pas. Il y a des séquelles à ces histoires d'éléphants, d'Hannibal. Le deuxième texte est un peu la mise en abîme du premier, ça s'appelle « État civil ». Pourquoi, habillé de frais, est-ce que je rentre pas dans la confiserie? Parce qu'il se trouve sur les grands boulevards? Parce que je ne mérite pas une petite gâterie? Personne ne me grondera, ni ne me chassera. Et puis je suis poli. Je me lave les mains 4 ou 5 fois par jour. Mes ongles ne sont pas bruns, même pas d'encre sur le pouce. Quand je regarde mes poignets, le bord de la chemise, je m'envie. Les pauvres gens ne se lavent jamais si haut. Ça porte à conséquence. Où que je me pointe, je serai bien noté. Dans aucun magasin, un vigile ne me fera la moue avec son talkie-walkie. Un vigile, non. Mais il y a d'autres gens plus perspicaces qui n'ont pas besoin des poignets pour juger, qui savent d'un regard. D'autres gens qui viennent du même milieu que moi, qui connaissent la chanson. Ils m'enverront un clin d'œil, une grimace en cachette pour me montrer qu'ils ne sont pas dupes, discrets. Ils me donneront du « monsieur ». Ils me feront passer pour quelqu'un de considérable. Ils flatteront ma mise. Ils se feront passer pour ma suite. Prenez 1 euro et lâchez-moi. Mais ils repousseront mon aumône en obtenant plus, et voilà. Ils auront payé le droit de ricaner ouvertement. Leurs grimaces seront simagrées. Qui sont ces gens? Ceux qui m'attendent pour si peu que je m'en sorte. Ils me reconnaîtront toujours à une certaine négligence, à je ne sais quoi qui prélude à leur barbe malade. À quoi reconnaît-on le rebut de naissance quand il n'est pas tombé mendiant? Le destin nous a crachés. Il nous reste ce relent de sorcière, une certaine solidarité avec les batraciens. Car on nous a aussi appris les contes pour les enfants sages. Et enfin, un dernier texte un tout petit peu plus long. Et on change carrément de région puisqu'on va aller se promener au Japon. Et je vais vous raconter ce qu'est le vrai Japon de porcelaine. Quand on connaît bien le Japon comme moi, le vrai Japon de porcelaine, on se n'est que c'est pas un préjugé racial que d'affirmer que tous les bridés sont interchangeables. C'est leur force. Il n'y a pas chez eux d'individus irremplaçables. C'est leur problème. Pourquoi croyez-vous qu'ils passent leur journée à se tirer le portrait? C'est pas pour se dérouiller l'index, c'est pour vérifier plus tard qui était là à l'instant T. Tout est prouvable avec le Nikon.
Tu vois bien que j'ai visité Lyon avec mon frère.
Les traits de ressemblance sont tellement accentués chez ces millions de Japs qu'ils peuvent se baratiner sans sortir la loupe. De toute façon, leur religion précise, pour le cas où on n'aurait pas compris, que le pecno moyen est la réincarnation d'un autre pecno. Faut pas se prendre pour la mule du pape, hein, on y passe tous, au moins une fois dans le karma. Donc, partout, du turbin à la prison, les types se refilent le bébé. Y a que les chiffres qui changent pas. Au tribunal, les plus sadiques ont l'air d'angelots, tu penses? Même si les copes de la perpète, tu le retrouves dehors en moins de temps qu'il ne faut pour tirer un verrou. Tiens, prends la relève une minute, j'ai une course à faire. Et ainsi de suite. C'est leur forme de solidarité patriotique que je dis.
Je sais pas pourquoi, ils me font peur, les nippons. On ne sait jamais avec qui on parle, avec qui on traite. C'est pire que les nègres à la nuit tombée.
D'un autre côté, si tu sors avec une poule bridée, tu peux sans te vanter annoncer que t'as eu toutes les filles de l'île. Il paraît qu'elles sont très portées sur la chose, qu'elles se sont toutes enfilées le karma sutra. C'est peu dire, mais j'ai dans l'idée que ça doit user de changer de position toutes les 5 minutes. D'autant qu'en moins de temps qu'il faut pour envoyer la purée, c'est plus la même nymphette qui fait la galipette dans le miroir à facettes derrière le paravent avec les oiseaux bigarrés et les bêtes maisons plates, la montagne à l'arrière, aussi ferme qu'une mousse à raser.
C'est pour ça. Ils sont déjà serrés comme du soja germé sur leur bande de terre, mais leur taux de natalité fait péter les cadrans. Ils sont tous fils les uns des autres. Il n'y a qu'à voir les photos. C'est pour ça que je dis qu'ils seront les maîtres du monde. C'est mathématique. Il n'y a pas à tortiller. Pose la calculette. Même en prison, ils se relaient. Ils mettent leur fils en préventive et ils reprennent les affaires sous un autre patronyme imprononçable, ce qui brouille encore les pistes.
Que du chiffre que je dis. Rien de personnalisé. L'individu, ils connaissent pas les jaunes. On n'y prête pas assez attention sous nos climats. Ils ont tout orchestré, pire que les Suisses. Les Suisses, ils ont pas eu besoin d'apprendre à compter. Ça leur est tombé sur l'orable d'habiter un paradis fiscal. Ça arrangeait tout le monde. L'issue de secours dans le coffre-fort, dans un cadre idéal de vert pâturage. Tandis qu'au Japon, ils sont revenus de loin. Ils ne sont pas nés avec les carasses ou les incisives. Avec ça qu'il leur fallait importer tout le nécessaire. Ils n'avaient rien chez eux. Ils ont dû acheter. Et ben maintenant, ils ont tout ailleurs. C'est sommaire et pratique. Leurs voisins, les Shintok, ils l'ont bien compris qu'il fallait acheter. Je les admire, en somme. Tous pour un. Il n'y a qu'un seul Jap. Mets-toi ça dans la tête. Un seul Jap. Mais il a tout. Parce qu'aussi, il a été irradié quand sa grand-mère était grosse. Il faut pas négliger ce détail. Encore que ça continue aujourd'hui. Il sait ce que c'est, l'effort de guerre. Il a tout subi, plus rien de là-bas. Il sourit, hé, du matin au soir, il affiche ce sourire accroché à ses oreilles. T'as déjà vu son sourire au Jap? Non? Bah, observe un coup, et tu comprendras que je t'ai pas baratiné.
Des dangers de l'anthropologie subjective.
Alors, vous êtes bien sur Radio Canu, et donc non, ce n'est pas une émission raciste, c'est un petite chronique paysagère qui a bien pour objectif de dénoncer ces préjugés. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, puisque donc c'est aujourd'hui la dernière émission de l'année 2011. On revient le 6 janvier 2012 avec le collectif L'Organisation, qu'on a à plusieurs reprises invité ici. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes. Au revoir à tout le monde.
Au revoir.
Je suis pas musicienne, je pourrais pas te faire un bon jingle.